Merci, donc bonjour. Je vais essayer de... Alors, je me présente d'abord, je suis Robert Votat, donc je suis à l'Institut Pierre-Simon Laplace et je travaille avec Sylvie aussi sur dans le cadre du GIS Climat. Je ne suis pas du tout épidémiologiste, je suis vraiment climatologue. Donc je vais essayer de passer un tout petit peu de temps pour vous exprimer ce que j'ai compris du sujet sur les extrêmes et la santé. Mais ça sera relativement succinct. Et je vais passer un petit peu de temps pour vous parler de la question des extrêmes climatiques en termes plus climatiques et en termes d'attribution. Parce que ça, c'est vraiment une question assez centrale, y compris, et qui va le devenir, à mon avis, pour les études, pour la santé. Donc, le plan de l'exposé, quelques informations sur l'impact climat-santé concernant les extrêmes climatiques, puis l'évolution actuelle des extrêmes climatiques et l'attribution, la question des projections et de l'assessement des... de l'évaluation des impacts. Hein. Voilà. Alors, si on regarde les impacts directs ce qu'on appelle les impacts directs du changement climatique, quand on va chercher dans le rapport du groupe 2 de l'IPCC, chapitre 11, on voit les impacts liés à la température, aux événements extrêmes type inondation et tempête, et les impacts via le rayonnement solaire. Hein, donc c'est vraiment ça couvre effectivement les exposés qu'on va avoir avec notamment Sophie qui va, je pense, prendre la suite. Hein. Voilà. Donc les impacts liés à la température, ce ne sont pas seulement les extrêmes, mais je vais vous parler des extrêmes. Ce que je voudrais dire avant aussi, c'est que à la lecture du rapport du groupe 2, je me suis rendu compte aussi que la science en est vraiment... Il y a énormément de choses à faire. Voilà. On reste encore dans un domaine extrêmement qualitatif, avec certes des études par pays, parfois, avec des nombres de morts, etc. Mais on reste encore dans une science qui est extrêmement qualitative et qui essaye de décrire des impacts potentiels sans pouvoir véritablement donner des chiffres avec des barres d'incertitude, etc. Je crois que c'est très important et c'est aussi très prometteur pour ce que nous voulons faire. Hein. Alors, parmi les extrêmes climatiques, donc les impacts directement liés à la température, bien sûr, il y a les vagues de chaleur et les vagues de froid. Alors, les conséquences sur la santé pour les vagues de chaleur sont assez bien connues. Alors c'est bien évidemment l'hyperthermie avec tout ce qu'elle entraîne comme risque, mais le lien avec c'est comme pour l'atmosphère, hein, la température est très liée, le cycle de l'énergie est très lié au cycle de l'eau. Et bien à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un petit peu la même chose. Si on a un problème de déshydratation, on va avoir aussi des problèmes de régulation thermique. Bien. Donc ces questions-là sont bien sûr étudiées dans de nombreux instituts. On met bien entendu en évidence cette courbe qui est la mortalité ou l'excès de mortalité par rapport à la température. Alors on retrouve ce type de courbe à peu près dans toutes les villes, avec des formes plus ou moins différentes. En fait, ici, là, il s'agit de Madrid, mais on retrouverait bien sûr les mêmes courbes à New York ou à Paris. Et cette courbe montre que, en fait, bon, on vit mieux à une température un petit peu centrale. Là, c'est quand même... Alors, je ne sais plus si c'est les maxima... Oui, c'est les maxima, hein. Donc là, il s'agit de plutôt 25-30 degrés à Madrid, mais bien évidemment, cet optimum se déplace en fonction des villes, des régions, et la forme de la courbe elle-même peut se déplacer. Par exemple, dans les pays chauds, on est en général assez mal adapté au froid et inversement. Donc, ce qui est quand même assez marquant dans cette courbe et qui revient quand même pour toutes les villes, c'est cette remontée de la surmortalité pour les valeurs extrêmement chaudes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez universel et qui est beaucoup plus difficile, en fait, à regarder, à mettre en évidence. Hein. Donc l'impact des vagues de chaleur sur la mortalité est important. Et par contre, pour les vagues de froid, on va voir que c'est un petit peu plus délicat. Alors, si on regarde, ça c'est un ensemble de courbes qui ne sont pas du tout publiées, qu'on a pu faire avec quelques collègues, qui décrivent sur quelques villes hein, comment la surmortalité évolue par rapport à un index de vagues de chaleur, qui est le nombre de jours, voilà, on l'appelait le H-index en référence à un autre index, qui est le nombre de... Voilà, donc, une vague de chaleur, par exemple, d'index 5, c'est une vague de chaleur qui, pendant au moins 5 jours, a une température 5 degrés plus forte que la normale. Et donc, l'index, pour une vague de chaleur donnée, c'est le plus grand N qui vérifie ces conditions-là. Typiquement, pour Paris, en 2003, on était dans du 7-8. Hein, donc, de temps en temps, il y a une petite baisse de température. Ce n'est pas 15 jours. Il n'y avait pas, pendant 15 jours, 15 degrés au-dessus de la normale. Mais on est plutôt dans un index type 7-8. La vague de chaleur russe était probablement la plus forte qu'on ait jamais, avec cet index-là, retrouvé. C'est du 9-10 par là. Donc, on voit après des biaisages. Et c'est là où c'est extrêmement délicat de travailler avec des données de mortalité. C'est que, bien entendu, dans chaque pays, sur des séries de très long terme, on a des biais, excusez-moi. On n'a pas des biais, on a des tendances qui ne sont pas dues du tout au climat, hein, qui peuvent être dues au système de santé, simplement, ou à d'autres effets, et qui sont souvent extrêmement difficiles à extraire du signal sur des séries de long terme. Alors voilà, donc cela montre avec une certaine assurance que pour plusieurs villes, le phénomène des vagues de chaleur est un phénomène qui impacte la santé et la mortalité de façon quasi certaine. Alors pour les vagues de froid, le phénomène est un petit peu plus délicat. Alors, il est un petit peu plus délicat parce que, en hiver, se mélange avec le froid un certain nombre de phénomènes, comme des phénomènes de maladies comme la grippe. Et il est souvent assez difficile, des phénomènes saisonniers, hein, donc il est souvent assez difficile de discerner, de démêler tous ces effets. En fait, dans les deux courbes, ici pour Paris et pour New York, donc c'est un travail qui a été fait avec Patrick Kinney, d'ailleurs, dans le cadre de nos différents allers-retours de Patrick en France, dans le cadre du GIS Climat, hein, donc c'est vraiment un produit du GIS Climat, je le revendique en tant que tel, même si il n'est encore pas publié. Cela montre que si on regarde les effets de la température sur la surmortalité, mais non plus de façon directe, en mettant toutes les données de toutes les saisons, mais en le faisant mois par mois, c'est-à-dire en retirant l'excès de surmortalité par rapport à la normale de chaque mois, eh bien, on voit un signal absolument clair pour l'été, et en revanche, pour l'hiver, pendant les mois d'hiver, le signal est beaucoup moins clair. Alors, il y a plusieurs effets qui jouent là-dessus, qui sont d'une part qu'effectivement, le signal est moins clair, déjà, mais aussi que les effets de mortalité sont dus à des effets d'un petit peu plus long terme. C'est pas le même jour, c'est pas le jour où il fait très froid qu'on meurt plus. C'est plus un effet d'accumulation pour différentes raisons que je ne commenterai pas parce que je suis pas du tout spécialiste et que par ailleurs il y a des spécialistes dans la salle. Voilà. Alors inondations et tempêtes. Là encore, c'est très très qualitatif. Bien sûr, avec un certain nombre d'effets. Un focus récent sur les effets sur la santé mentale, un sujet qui a probablement été assez longtemps mis ou ignoré et qui revient beaucoup. Les traumatismes ne sont pas que des traumatismes physiques, mais aussi mentaux. Hein. Voilà. Alors, je vais passer sur des sujets sur lesquels je suis peut-être un tout petit peu plus à l'aise. les évolutions actuelles et l'attribution du changement climatique, des événements extrêmes, l'attribution des causes des événements extrêmes et la part du changement climatique, on va le dire comme ça. Alors c'est un sujet assez difficile et j'ai vu aussi dans les exposés de ce matin une assez grande prudence sur ce thème-là. En fait, la question est la suivante. Lorsqu'on observe soit un changement, soit un événement extrême, que peut-on dire de la part du changement climatique ? Alors, au niveau du climat, déjà, c'est extrêmement difficile, et vous allez voir que le GIEC est assez prudent sur ce sujet. Et alors, au niveau des impacts, je pense que là, on a une avenue scientifique devant nous, avec des méthodes nouvelles à mettre en place, qui utilisent des modèles comme ceux qu'a utilisé Cyril, mais pour non pas faire des projections dans le futur, mais pour essayer de voir quelle est la part du changement climatique dans les évolutions actuelles. Et on le voit, les questions des journalistes aujourd'hui portent là-dessus principalement. Le chikungunya est-il dû au changement climatique ? Sandy, etc. Alors, sur la santé, ça va être de plus en plus le cas, je pense. Donc, il y a des méthodologies à mettre en place et il y a toute une communauté de statisticiens, climatologues déjà, et probablement dans d'autres disciplines qui utilisent ces méthodes. Alors, premièrement, là, je vais rester sur le domaine climatique. Sur le domaine climatique, les vagues de chaleur continuent à augmenter en nombre. Hein. Ça, c'est un phénomène qui est observé. Et on a pu... alors là, c'est un article qui est paru assez récemment, qui montre que malgré le fait qu'il y a effectivement un ralentissement du réchauffement global, les vagues de chaleur continentales, elles, se poursuivent. Donc la courbe en rouge qui dénote la valeur du 95e centile des températures continentales. Alors maintenant, quelle est la part qu'on peut attribuer au changement climatique dans chaque événement extrême individuel ? Alors c'est une question extrêmement difficile, d'abord parce qu'il y a une variabilité naturelle qui est très importante dans le climat. Donc d'une manière générale, on essaye toujours de trouver une cause à un événement extrême, mais il n'y a pas de cause, il y a un chaos qui est généré par l'instabilité de l'atmosphère et qui engendre des événements extrêmes de façon assez naturelle. Donc la question est plutôt de savoir, est-ce que le changement des gaz à effet de serre ou l'action humaine modifie la fréquence ou l'intensité de ces événements. Et on va retrouver le même type de question pour les impacts. Donc pour les maladies, ça sera exactement le même type de question. Donc le résultat, c'est qu'il est, d'une manière générale, assez difficile de faire une attribution quantitative, mais je veux essayer de vous montrer quelques méthodes. Donc, alors... je crois que les groupes les plus avancés dans les méthodes sur les événements extrêmes sont probablement les Anglais, qui essayent, en utilisant toute la puissance des ordinateurs, de faire de très très nombreuses simulations, parce que pour avoir des extrêmes et des statistiques sur les extrêmes, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup. La méthode est relativement simple dans son principe. On prend des simulations du climat d'aujourd'hui avec le CO2 actuel et on prend des simulations qui sont faites avec du CO2 ou représentatif plutôt de l'ère pré-industrielle et on regarde la différence finalement des probabilités d'occurrence d'un événement dans les deux cas. Alors c'est extrêmement lourd évidemment hein, parce qu'on est obligé de faire des simulations. Là pour l'hiver dernier, l'épisode de l'hiver dernier, l'équipe d'Oxford a réalisé, je crois, 40 000 simulations de l'hiver lui-même. Donc, pour voir des effets, c'est souvent assez difficile. Alors, c'est plus ou moins difficile selon l'événement qu'on regarde. Si on regarde, par exemple, à droite, là, pour commencer, là, il s'agit de la vague de chaleur russe en 2010. Un truc massif. Hein. Donc là, il y a les simulations, on représente le temps de retour pour un niveau donné de température mensuelle ici. Donc par exemple, dans le climat actuel, 25 degrés de moyenne sur la zone représente un temps de retour d'environ, mettons, 50 ans, voilà. Alors que si on utilise des simulations climatiques avec un climat pré-industriel, à ce moment-là, on a un temps de retour pour le même événement qui est beaucoup plus élevé. Hein. Donc c'est cette différence des temps de retour qu'on va regarder. Alors, si sur la température, c'est relativement facile de faire l'exercice, pour les précipitations, pour les débits de rivière, ça devient de plus en plus difficile, et on voit que la simulation du climat actuel, finalement... Alors, oui, j'ai dit une bêtise, c'est pas, probablement pas le climat pré-industriel, c'est 1960-1969, donc on change... excusez-moi, hein. Donc dans cette figure-là, c'est comme ça, dans les autres, c'est, voilà, c'est autrement. Donc les débits, tout ça, donc là, on est dans une marge d'incertitude extrêmement faible. Alors, je vous laisse imaginer, si en plus on va rajouter des modèles d'impact par-dessus, l'incertitude va être très très grande. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ce que je voulais, mon message, c'est vraiment de dire que c'est une science qui se développe, en tout cas au niveau climatique. Et je pense que si on veut avoir pouvoir répondre de façon précise aux questions que les journalistes nous posent, mais aussi, pas seulement les journalistes, la société, tout le monde, hein, tout le monde, voilà, les gouvernements, les autorités locales, il faut qu'on puisse répondre de façon précise pour éviter les exagérations dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et ces méthodes-là peuvent permettre de le faire et aussi parfois de se rendre compte à quel point nous sommes ignorants face à ce sujet. Bien, donc quelques résultats chiffrés quand même sur la température, on a des résultats. Hein. Donc l'été 2003, il a été montré que vraiment là, il y avait très peu de chances qu'il se passe sans changement climatique. L'été 2010, même chose. Mais il faut bien avouer une chose, c'est que pour tout le reste de les phénomènes de type précipitation intense, etc., la question est beaucoup plus difficile, même si on voit un petit effet dans les modèles. C'est souvent avec un seul modèle et plein de simulations, et alors qu'il faudrait plein de modèles et plein de simulations, on a quand même encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Voilà, de façon très synthétique, ça c'est un tableau alors un peu indigeste, mais qui est très important, parce que c'est le tableau de synthèse du rapport du GIEC, groupe 1, qui donne par type d'événement extrême la détection, donc la tendance, la contribution humaine estimée avec un indicateur de confiance, et puis les projections futures. Donc ce qu'on voit sur l'attribution des événements extrêmes, c'est qu'on a essentiellement des résultats concluants que sur les vagues de chaleur dont l'augmentation est probablement due à l'homme. Ça reste prudent. Sur les cyclones, très faible confiance. Enfin, faible confiance sur les sécheresses, faible confiance, et sur les événements précipitants intenses, là par contre le niveau de confiance augmente. Il semble que un nombre d'études aient pu montrer ce genre de choses. Alors bien sûr, oui. Voilà. Alors, donc ça, c'est. Je vais montrer quelques images de projection malgré tout, parce que là, si on regarde dans le futur, là pour le moment, on regardait dans le présent. Si on regarde dans le futur, il y a quand même des choses à signaler qui sont extrêmement importantes. Donc, on a vu que les vagues de chaleur font partie du tableau, et dans le futur, elles devraient en faire partie encore plus. Là, cette figure représente plusieurs simulations qui ont été faites. Hein, récemment, des simulations relativement haute résolution, mais on trouve les mêmes résultats dans des simulations globales à basse résolution, donc ce n'est pas spécifique à ce type de simulation, qui représente plusieurs simulations des moyennes saisonnières autour de Paris. Hein. Alors en 2003, Donc on a des observations en noir. Alors on ne s'attend pas à avoir des pics au même moment que les observations, puisque ce sont des modèles de climat qui vivent leur vie depuis le milieu du 19e siècle. Hein. Donc ce sont des projections climatiques. Et, par contre, ce à quoi on s'attend, c'est que ces différents modèles, pendant la période historique, représentent correctement la variabilité de cette température. Et on voit effectivement que c'est tout à fait raisonnable pour les différents modèles. L'été 76 est ici, à 2,7 degrés, et l'été 2003 est à plus de 3 degrés d'anomalie par rapport au climat actuel. Voilà. Alors, bien entendu, quand on extrapole dans le futur et quand on regarde la comparaison aux simulations futures, on s'aperçoit d'une part que pour des simulations où on a une politique climatique, eh bien, malgré l'occurrence de certains événements de type 2003, dans le futur, cela devrait rester assez limité, alors que pour des scénarios sans politique climatique, plusieurs études, plusieurs modèles montrent que ce ne sont plus des vagues de chaleur. Les vagues de chaleur les plus extrêmes ne sont plus à 3 degrés, mais plutôt à 9 ou 10 degrés. Donc y a des phénomènes d'amplification. Donc, alors, ce qui est aussi assez intéressant sur cette figure, c'est que les modèles, ou les quelques modèles qui donnent les valeurs les plus élevées, finalement montrent que ce n'est pas du tout une évolution continue. Hein. On peut très bien avoir encore quelques étés 2003. Alors, c'est une possibilité, hein, ce n'est pas une prévision. On peut très bien avoir encore quelques étés 2003 jusqu'à la moitié du siècle et soudainement avoir un événement 3 degrés plus élevé. Donc, est-on préparé à ça, à avoir 15 jours non plus de 39 degrés mais de 42 degrés à Paris? Voilà, la question pour les systèmes de santé, elle est là. Donc, ce n'est pas parce que voilà, on sera resté pendant 20 ans au même niveau qu'on ne va pas avoir des événements de type... avec des marches d'escalier comme ça. Bien, pour les précipitations, on a le même type de résultat avec, là c'est les précipitations en Angleterre du Sud, avec les séries observées et les projections climatiques, donc une augmentation également des phénomènes. Et je crois qu'il va falloir, malheureusement, j'aurais voulu vous montrer peut-être une figure du rapport Jouzel 2, qu'on appelle Jouzel 2, hein, c'est le rapport sur les scénarios climatiques en France qui est paru au début du mois. Il y a eu plusieurs annonces, donc c'est un travail collectif qu'on a fait avec Météo France qui pilotait le rapport. Juste pour vous montrer que, alors là c'est même pas un scénario extrême, hein, c'est du RCP 4.5. Ce qu'on voit c'est que sur un indice de vague de chaleur, eh bien, entre deux modèles, les deux chaînes de modélisation qui ont été utilisées en France, qui sont celles-ci, on a des différences assez importantes dans les projections, mais qui donnent toutes, bien évidemment, une augmentation des vagues de chaleur. Si on regarde par contre les événements précipitants, alors là, on obtient un résultat très contrasté, comme vous pouvez le constater. Et si on regarde l'ensemble des modèles, alors là, on a un intervalle à 25-75, c'est très, très large. Donc, sur les précipitations, là, c'est les précipitations hivernales. En été, c'est encore pire. Je n'osais même pas vous montrer l'incertitude est très grande sur la zone de précipitation. On retrouve quand même des choses... on retrouve quand même des choses. Hein. Si on regarde bien, à certaines saisons, on retrouve des choses qui sont communes. Hein. Voilà. Les tempêtes, puisque je suis obligé d'en parler, des tempêtes, hein, c'était le sujet. Donc les tempêtes, là, bah oui, les tempêtes, inondations. Inondations, j'en parlerai pas, mais bon. Les tempêtes, là, les résultats sont beaucoup moins marqués. On a très peu de résultats sur le climat actuel, enfin il y en a hein, bien sûr, mais les projections futures montrent plutôt un décalage vers le nord du rail des tempêtes, hein, donc un léger décalage vers le nord de la zone la plus impactée par les tempêtes, qui serait donc plutôt plus sur l'Angleterre du nord, etc. Mais quand on regarde dans le détail les différents jeux de projection, il y a énormément d'incertitudes sur ce point. Et les tempêtes extratropicales, en tout cas, ne sont pas événements, enfin les changements ne sont pas les événements les plus marquants. Bon, je saute à mes conclusions parce que là vraiment je pense que je laissais la place à la discussion. Donc les impacts du changement climatique sur la santé via les extrêmes restent encore très difficiles à quantifier. Il y a des études, mais elles ne sont peut-être pas avec plusieurs modèles, etc., etc. On a difficilement des nombres, ça reste très qualitatif. La science de l'attribution est en émergence, c'est très important de le dire, et on a un gros besoin, qui a été identifié dans plusieurs projets, d'interdisciplinarité à ce niveau-là, pour faire l'attribution des changements, des maladies, ou des vecteurs, ou ce que vous voulez. Mais déjà, rien que ça, c'est extrêmement... Alors, rien que le climat, déjà, c'est extrêmement complexe. Mais alors, si en plus, on rajoute les incertitudes qui sont liées au modèle pour faire sortir un signal climatique du bruit et de l'incertitude, c'est très difficile. Et bien sûr, nécessité d'une approche interdisciplinaire, ça, je ferai que le rappeler, mais je pense que tout le monde le rappellera. Donc, c'est rien de spécifique. Merci.
Merci Robert. Alors, des réactions, des questions, des commentaires.
Sophie. Oui, donc Robert, sur un des premiers transparents qui montrait les courbes vertes et bleues là sur les méthodes d'attribution. Je me demandais pourquoi les simulations du non-industriel avaient une variabilité plus grande. Et la deuxième question, c'était, c'est un seul modèle qui est utilisé, c'est une simulation d'ensemble avec un seul modèle. Donc, quel serait, à ton avis, mais je pense, je ne sais pas si tu as la réponse, si on utilise plein de modèles, quoi.
Alors, je peux te donner une liste extrêmement longue de toutes les choses qui a amélioré, qui est derrière. Un, tu as raison, c'est qu'un seul modèle. Parce que, finalement, ce projet-là a pu être réalisé grâce à l'inventivité, je dirais, de Miles Allen, qui a donc sollicité tous les ordinateurs d'Angleterre, ou peut-être même au-delà, pour ces ordinateurs qui dorment, pour essayer de faire des calculs climatiques. Donc c'est ce projet qui s'appelle Weather at Home. Ce projet, à mon sens, est unique. Je n'ai pas vu d'autres choses comme ça. Donc c'est un seul modèle, c'est le modèle du Hadley. La méthodologie a pas mal de défauts. En particulier, c'est un modèle atmosphérique, ce n'est pas un modèle couplé. Hein, donc aujourd'hui, oui, c'est... Donc on suppose l'océan comme pendant les épisodes, et on suppose un océan avec quelques degrés de moins, mais dans la méthodologie, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courbes vertes, c'est qu'on utilise tous les modèles, toutes les projections climatiques, enfin, tous les modèles qui ont été utilisés pour les projections climatiques, pour enlever le signal climatique. Donc la méthodologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est parce que c'est du multimodèle pour les verts et pas du multimodèle pour le bleu. Le bleu est un peu une simulation de l'actuel avec ce modèle-là.
C'est voilà. Une année particulière, le bleu. C'est une année...
Mais toutes, hein. Toutes. En gros, la méthodologie, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est de prendre l'ASST, la température de surface de l'océan, d'un modèle, observé même, c'est même la température observée pendant par exemple l'hiver dernier, et de lui retirer le signal climatique par différence entre l'actuel et le pré-industriel des autres modèles. Donc c'est très technique.
Effectivement, c'était voilà. Au-delà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires ?
Il y a beaucoup de choses à faire.
Moi, j'avais une question, parce qu'effectivement, cette idée de l'attribution des impacts, je pense que c'est une idée tout à fait intéressante qui serait importante à creuser. Je ne sais pas si Cyril aurait une réaction là-dessus. Parce qu'en fait, on a différents types de modèles écologiques, de niches, ou par exemple, ou choses comme ça. Mais en plus, c'est multifactoriel, donc je ne sais pas trop comment on s'en sort. Est-ce que ça t'inspire, Cyril ?
Il y a déjà des gens qui ont commencé, Adrian Tompkins par exemple, qui bosse en Italie au centre de physique théorique. Il a commencé à regarder ça, on l'avait pas fait pour iZMIP, mais il voulait faire en fait des simulations pré-industrielles, avec des simulations climat observé, futur, et regarder la différence, essayer de faire une espèce d'attribution avec des ensembles. Mais bon, ça reste. Il y a tellement de facteurs qui vont jouer autre que climatique que c'est un petit peu poussé, je pense, ça va être un peu poussé la chose, mais il y a des gens, on commence à regarder déjà, ça commence à être regardé.